C'est parti.
On a lu tout à l'heure Luc, chapitre 23, lors de la Sainte Cène. On va un petit peu plus loin ce matin, en Luc, chapitre 24, au verset 49. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Pour qu'un renouveau puisse opérer dans notre vie, je crois qu'il est nécessaire que nous comprenions cette promesse que Dieu nous a faite, que nous la comprenions, que nous la connaissions. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le but de cette exhortation, c'est en premier lieu de nous encourager, de nous interpeller et de nous annoncer que cette promesse est en voie de nous être restaurée, si nous désirons la connaître. Le deuxième but, c'est de nous rendre plus humbles dans nos rapports les uns avec les autres, en tant que frères et sœurs. Alors quand Jésus a parlé de cette promesse, la promesse du Père, hein, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis », il n'a pas dit « J'enverrai sur vous une des choses que mon Père a promises ». Il y a certains prédicateurs qui disent il y a à peu près 3000 promesses dans la Bible. Il y en a d'autres qui vont un peu plus loin, ils disent 6000. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y en a dans la Bible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les disciples, eux, ont parfaitement compris ce que Jésus voulait dire en parlant de ce que mon Père a promis. Alors, il nous est possible aujourd'hui de connaître et de comprendre cette promesse du Père. Parce que les Écritures en parlent très clairement et avec précision. Mais cela nous pose néanmoins des problèmes. Même si la Bible parle de cette promesse, je ne parle pas des promesses, mais de cette promesse, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Si vous aviez demandé à n'importe quel juif ce que cela signifiait, il aurait probablement su quoi vous répondre, il aurait pu vous le dire. Mais nous, on a quelques problèmes. On a tellement de doctrines tirées de l'Écriture que nous ne savons plus où telle doctrine commence, où une autre finit, où telle autre se situe par rapport aux deux premières. Alors nous allons simplifier les choses ce matin. Et pour cela, il faut commencer par le commencement, Adam et Ève. Alors, certains disent que si Adam et Ève n'avaient pas chuté dans le jardin, on aurait probablement des vies strictement différentes, des conditions de vie un peu différentes. Et puis là, quand on est dans cette réflexion-là, on se dit « Oh, si j'avais été à la place d'Adam, j'aurais pas péché, moi. Quand on me dit quelque chose, je le fais tout le temps. Je tiens toujours mes promesses. » Et puis, 3 secondes après, on se dit que non, on aurait péché aussi. « Oh, si j'avais été aussi innocent qu'Adam !» Eh bien, Adam était innocent, mais il échoua quand même. Il échoua. L'innocence ne garantit pas le succès. Et comme je le disais tout à l'heure, si Adam et Ève n'avaient pas chuté, eh bien, ça aurait été Caïn ou Abel. Et puis, on aurait pu faire de génération en génération jusqu'à arriver à nous. Parce que l'homme a été créé avec la possibilité de l'échec. Quand Dieu fit l'homme, il savait que l'homme échouerait. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a mis en nous la possibilité de l'échec ? Eh bien, il faut plutôt qu'on se mette du côté de Dieu et non pas se centrer sur nous-mêmes. Si Dieu a créé l'homme avec la possibilité de l'échec, c'est parce que Dieu voulait pouvoir se glorifier avec un rien. Avant qu'Adam et Ève ne tombent, Dieu leur avait dit qu'ils ne pouvaient manger le fruit d'un certain arbre. Ils ne pouvaient pas manger de ce fruit-là. Mais ils l'ont mangé quand même. L'homme est devenu conscient du bien et du mal et se trouvait désormais dans l'obligation de choisir ce qu'il voulait faire. Mais il était tellement faible qu'il était incapable de faire le bien et d'abandonner le mal. sa conscience le condamnait continuellement pour ses échecs. Ça vous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas ? Quelqu'un de très personnel, que vous connaissez très très bien. Incapable de faire le bien et d'abandonner le mal, sa conscience le condamnant continuellement. Alors que puis-je faire ? Ça, c'est peut-être ce qu'Adam a pu dire, c'est peut-être ce que nous nous disons aussi. Comment puis-je plaire à Dieu ? Je connais le bon chemin. Si tant est que je m'y intéresse, si tant est que je puisse lire la Bible. Je connais le bon chemin, je connais aussi le mauvais chemin. Je veux faire ce qui est bien, mais je fais ce qui est mal. Clin d'œil à notre apôtre Paul. Ô Dieu, c'est ça la vie ? C'est ça la vie que tu me promets ? Comment, Seigneur, je peux accomplir tes exigences ? On fait un petit saut dans le temps, on était à Adam et Ève, on arrive à Moïse. Dieu ensuite envoie la loi à Moïse. La loi, c'est la parole écrite. Elle était claire. Si vous lisez le Pentateuque, vous allez voir, il y a beaucoup de lois et c'est très clair. Claire et puissante, avec tous ses commandements et tous ses « fais ceci, ne fais pas cela ». Et le peuple est venu voir si la pierre gravée avait quelque consolation pour lui, mais elle avait toujours les mêmes exigences, les mêmes commandements. Et le peuple, quant à lui, restait avec ses échecs, restait avec les mêmes problèmes. Les gens, je le pense, et nous sommes dans ce cas-là, les gens veulent vraiment se conformer à ces prescriptions. Les prescriptions que Dieu leur a données, et ils veulent vivre dans la sainteté. Moi, c'est mon désir. Mais ils en sont incapables. À l'époque, il semblait que peu importe ce qu'ils faisaient ou l'effort que les Juifs, les Hébreux y déployaient, jamais ils ne pourraient maintenir une vie qui plaise à Dieu. La suite, un petit saut dans le temps également, on arrive à Jérémie. Alors, Dieu promet de faire quelque chose pour aider son peuple. On retrouve la trame de cette promesse, je vous le disais tout à l'heure, que cette promesse, celle que Jésus nous promet en Luc chapitre 24, est présente de Genèse à Malachie. On la retrouve notamment dans Jérémie, au chapitre 31. Dieu formule sa promesse ainsi, à partir des versets 31 jusqu'à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, « car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Dieu a dit que cette nouvelle alliance allait être complètement différente de l'ancienne, de celle qu'il avait faite quand il avait fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Ce ne serait plus un commandement de l'extérieur, mais une impulsion de l'intérieur. Il avait dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. » Alors, on connaît un petit peu la différence entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et bien souvent, lorsqu'on reprend ce passage dans Jérémie, eh bien on retient, et c'est bien de retenir ça, on retient essentiellement « je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Ça, c'est le salut. Et ça, frères et sœurs, si vous croyez en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection, vous avez le salut. Maintenant, moi, je parle de la vie qu'on a à présent. Si on ne se souvient que du salut, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Il y a plus que ça dans la nouvelle alliance. Alors, quelle est la différence entre être commandé de l'extérieur, par des commandements, par une loi, et agir sur une impulsion de l'intérieur? Alors, moi, j'aimerais vous faire une petite illustration personnelle. Quand j'étais encore fiancé avec Amy, il y avait un phénomène qui se produisait. Quand elle était absente, ma mère pouvait me demander de débarrasser, de faire la vaisselle, de nettoyer ma chambre. Rien n'y faisait et je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas, je n'avais pas envie de le faire. J'objectais à chaque fois. Je ne voulais pas être obligé de faire cela. Mais quand Amy était à la maison, c'était un autre son de cloche, n'est-ce pas? On a peut-être connu ces situations. Hein, quand ma mère me disait « Jean-Simon, tu peux débarrasser », parfois elle n'avait même pas besoin de me le demander, je le faisais, parce que ma fiancée était là. Ma fiancée était à la maison. Eh bien, je pense qu'on vit un petit peu la même chose dans nos vies quotidiennes, n'est-ce pas? Quand le fiancé est là, on peut faire des belles choses. On ne se sent pas obligé de servir. Par contre, quand il n'est pas présent dans nos cœurs, de venir à l'église le dimanche matin, de pouvoir servir un de nos frères, c'est plus compliqué. Mais quand il est là, quel plaisir de le servir. Quand le fiancé est à la maison, c'est une autre histoire. C'est ainsi que Dieu veut que nous le servions volontairement, de bon gré. Mais les 10 commandements ne sont qu'une ombre de la volonté de Dieu. Souvenez-vous sur le sermon, sur la montagne, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous vous souvenez de la suite? Il dit, moi je ne vous demande pas que ça. Je vous demande d'aimer vos ennemis. La volonté de Dieu est bien plus que les 10 commandements, que la loi écrite. La stricte observance de la loi de Dieu, finalement, ne l'exalte pas vraiment, parce qu'il voit que les gens le servent par obligation, parce qu'ils y sont contraints. Ceux qui servent Dieu parce que la lettre de la loi les contraint de le servir sont encore sous l'ancienne alliance. Et bien souvent, moi je suis encore là-dedans. Ils n'ont rien appris de la Nouvelle Alliance, et de ce fait, aujourd'hui, la majorité d'entre nous, la majorité des chrétiens, vit encore sous l'Ancienne Alliance. Ils disent « J'ai essayé de faire ceci ou cela ». Ainsi, ils avouent être incapables de faire ce qui est juste. Ils vivent sous la condamnation, même s'ils chantent et louent, et sont effectivement membres du peuple de Dieu, le salut est à eux. Eh bien, ils ont encore d'énormes doutes et sont en lutte constante. À l'Église, ils font de bonnes et belles choses, mais quand vous allez chez eux, quand vous allez chez moi, vous vous apercevez vite des problèmes dont ils sont la proie, dont je suis la proie. Ils vivent sous l'Ancienne Alliance. Alors, certains croient que l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, et que la Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament. Je peux vous dire, on vient de dire Jérémie, c'est parfaitement faux. Dieu avait déjà tout prévu. L'ancienne alliance, plutôt, c'est la loi écrite. Et la nouvelle alliance, c'est un cœur nouveau. Ézéchiel, si vous regardez dans vos Bibles, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Dieu n'a pas dit, je vous donnerai un nouveau code de morale, une nouvelle liste de commandements. Non, il a dit qu'il nous donnerait un nouveau cœur, un modèle récent et efficace, avec incorporation de sa volonté comprise. Cela n'est pas quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes. En Ézéchiel, si vous continuez un petit peu la lecture, au chapitre 40, Ézéchiel, vous savez, c'est après la destruction du temple, la première destruction du temple, et Ézéchiel voit en vision un nouveau temple. Alors, avec Karl, je lisais ce chapitre-là, en fait, il y en a trois, un peu long. Et je me disais, mais à quoi ça me sert de connaître la vision du nouveau temple? Alors vous pouvez lire, c'est architectural, hein. Vous avez voilà, telle longueur de bâtiment, ça fait 3 km, enfin voilà. Et je me suis aperçu en lisant les descriptions dans Rois et dans Chroniques que le nouveau temple, celui qu'Ézéchiel voit dans sa vision, il est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Il est plus grand. Mais les murs ne sont pas parés d'or. Il n'y a pas de décoration. Il n'y a même pas de prêtre. Il y a juste un autel. juste un autel encore plus simple que le modèle qui est décrit dans le premier temple. Ainsi, dans le nouveau temple, il y a beaucoup de place. Il n'y a qu'un seul autel. Et la parole nous dit que ce temple est rempli de la gloire de Dieu. Rempli, pas juste le Saint des Saints. Tout le temple est rempli. Ainsi, on comprend que dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne veut plus qu'on suive des commandements. Voilà, il faut que vous soyez décorés comme ça ou comme ça. Il faut juste de la place. Faites de la place dans votre vie. De la simplicité, il y a juste un autel. Mais l'autel, c'est le sacrifice, vous le savez. Et être rempli de la gloire de Dieu. Apprendre les commandements de Dieu par cœur ne veut pas dire pour autant que nous les avons dans notre cœur. Sous l'Ancienne Alliance, l'homme apprenait, hein, vous savez, les commandements de Dieu par cœur, mais ne pouvait malgré tout pas leur obéir. Il y a des gens qui aujourd'hui encore utilisent l'ancien cœur tout en ayant le cœur nouveau qu'ils ont reçu lors de leur conversion. Mais avec un cœur nouveau, avec la parole de Dieu incorporée, l'homme peut enfin satisfaire aux exigences de Dieu. Mais il ne peut le faire que par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas là d'une grâce théorique ou d'une grâce de position. C'est une grâce pratique. C'est une relation dynamique avec Dieu, dans laquelle c'est lui qui fait que nous marchons dans sa volonté, par son Saint-Esprit. Alors, il est essentiel qu'on comprenne ça. Il est essentiel que nous comprenions que l'Ancienne Alliance est fondée sur des lois auxquelles il faut obéir. La Nouvelle Alliance est fondée sur le don du Saint-Esprit que nous sommes appelés à suivre. Si vous pouvez comprendre cela, vous serez la personne la plus heureuse de la terre. Vous vivrez une vie nouvelle avec un cœur nouveau. Le Saint-Esprit est la pleine et totale volonté de Dieu, et non seulement une petite partie, comme l'était l'Ancienne Alliance. Sous celle-ci, il était dit aux gens « Ne volez pas, ne forniquez pas, ne mentez pas. » Le jour de la Pentecôte, Pierre ne reçut pas un nouveau rouleau où étaient inscrits de nouveaux versets donnant de nouveaux commandements. Non. Les disciples ont reçu l'Esprit. L'Esprit de la promesse du Père, exactement comme Jésus le leur avait promis. Jésus lui-même parle de cette promesse avant Luc chapitre 24. Il en parle à plusieurs reprises. Dans Jean, par exemple, au chapitre 1, verset 26, il avait dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Quand ils reçurent le Saint-Esprit, la vie des disciples tout entière en fut transformée. Ils commencèrent à vivre une vie au-delà des exigences de la loi. Magnifique, n'est-ce pas? Ils se mirent à partager leurs possessions. Jamais c'est dit dans la loi de Moïse. Hein. Ils commencèrent à s'aimer les uns les autres, à aimer leurs ennemis. Souvenez-vous d'Étienne, le jour de sa lapidation. À se réjouir quand ils étaient persécutés. Ils n'avaient pas de Bible, pas de matériel d'école du dimanche, pas de d'iPhone pour enregistrer les sermons. Ils n'avaient que ce que l'Esprit de Dieu leur avait donné. Une foi incorporée qui les faisait marcher dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi ils pouvaient chanter en prison après avoir été battus et enchaînés. Alors, voyons un peu ce qu'un cœur nouveau incorporé signifiait pour l'Église primitive. En 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 6. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu, non que nous soyons par nous-mêmes et capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Vous et moi, nous sommes aussi les lettres de Christ au monde, écrites par le Saint-Esprit. C'est cela la promesse du Père. Nous pouvons écrire des lettres de l'esprit uniquement si nous sommes ministres de la Nouvelle Alliance. Si nous sommes ministres de l'Ancienne Alliance, nous ne pouvons que les écrire sur du papier. et non sur nos cœurs. Et ça, n'importe quelle faculté de théologie, de cours biblique, est capable de produire des ministres de la lettre. On est tous capables de connaître intellectuellement. Mais il n'y a que Dieu qui puisse former des ministres de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. Le ministère de l'Esprit est de donner l'Esprit, et non de dire « Regardez ce que dit la loi et faites-le ». Chaque chrétien devrait se demander « De quoi suis-je le ministre ?» Des lettres qui tuent ? De l'obligation d'appliquer les commandements ? Ou de l'Esprit qui fait vivre et qui dépasse les commandements ? Je dois bien confesser que pendant des années, selon ce que dit 2 Corinthiens, j'ai tué les gens. La lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. J'avais le ministère de la condamnation par la lettre. Ah, tu fais pas ça, t'es pas un bon chrétien. Quoique sincère et faisant du mieux que je pouvais, la plus grande part de mon ministère était du type ancienne alliance. Si nous sommes ministres de la lettre de la loi, eh bien nous tuons et nous condamnons. Si nous sommes ministres de l'Esprit, nous donnons la vie à ceux que nous servons. Nous leur donnons la capacité de faire la volonté de Dieu. Alors, arrêtons d'essayer d'appliquer un programme d'exécution d'œuvre pas toujours motivé par l'amour. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses de participer à des ministères, c'est la façon dont on y participe. Arrêtons d'essayer d'appliquer un programme d'exécution d'œuvre pas toujours motivé par l'amour, mais vivons par l'amour et l'Esprit de Dieu. Ces deux éléments nous impulseront des œuvres bien plus plaisantes aux yeux de Dieu. Alors, avez-vous reçu un cœur nouveau, un cœur qui impulse une vie pour Dieu? C'est la question à laquelle nous devons répondre. En tout cas, c'est ce à quoi nous sommes appelés par la promesse du Père qui est le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Je vous remercie.